Elle est en place. C'est la poudre.
Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat.
Tiens, on a découpé une femme.
I am a feminist.
Je vous obsède avec une constance.
Je ne me suis pas conduite d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite.
I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist.
C'est enfermant pour tout le monde.
Le droit de se regarder en face, le droit de se ramasser la gueule.
Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas de quoi qu'elle marque.
Bienvenue.
Son épontre subjectivité et révolution.
Boum. Poudre.
This episode is brought to you by Essentia. A better you starts with better hydration. Essentia is on a mission to inspire people to do what matters most. Their proprietary ionization process transforms water from any source into ionized alkaline water, providing water that's 99.9% pure with a pH of 9.5 or higher. Essentia overachieving H2O, the number one ionized alkaline water. Shop now.
Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Bibia Pavard.
Parce que l'histoire, c'est important pour essayer de comprendre ce qu'on est en train de vivre.
Bon bah voilà, c'est parti pour la saison 5 de La Poudre. Une saison que j'ai voulu un peu différente des précédentes, moins intime et plus politique. Je vais recevoir tout au long de la saison des chercheurs, des chercheuses, des militants et militantes qui vont nous apporter des éclairages théoriques sur l'époque dingue qu'on est en train de vivre. Parce que l'époque est dingue, on est d'accord. Tout cet espoir.
Le genou à terre et le poing levé. Scandant le même slogan Black Lives Matter.
Nous sommes en guerre.
La colère qui embrase les États-Unis depuis le décès de George Floyd.
Nous venons à peine d'enlever nos masques à l'instant.
I'm not going to answer the question because the question.
Will you shut up, man?
Bonsoir.
Une partie de ces rencontres sera enregistrée en public au Carreau du Temple, ce lieu incroyable au cœur de Paris, où j'ai déjà eu la chance de recevoir des activistes pendant tout un cycle de conférences il y a 2 ans, et qui a donné naissance au livre Présente que j'ai sorti début septembre chez Alary, et j'espère que vous l'avez lu, mais sinon je vous en veux pas, hein, c'est pas grave. Il y aura une rencontre une fois par mois, si le méchant virus le veut bien, et ça sera, comme toujours, gratuit, sans réservation et interprété en langue des signes par la SCOP Paris Interprétation. Toutes les infos sont sur nos réseaux sociaux. Je voulais remercier Sandrina Martins, la directrice du Carreau du Temple, ainsi que toute son équipe de m'avoir renouvelé sa confiance. J'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir croisé sa route. Allez, en scène!
Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde.
Avec Bibia Pavard, on a parlé des façons, d'archives et de moments.
J'avais pas réalisé à quel point ça me manquait ce lieu. Depuis 2 ans, je suis tellement émue de voir toutes vos têtes, même masquées. Alors ce soir, on va parler d'histoire. Qui dit histoire, dit date, dit chronologie. Et en préparant cette rencontre, j'ai eu envie un peu de me pencher sur la chronologie des temps présents, si ça veut dire quelque chose, mais vous allez voir, je veux en venir quelque part. Quand on regarde bien les dates, MeToo, c'est arrivé 1 an après l'élection de Donald Trump. Alice Coffin, elle a commencé à militer après la création de la Manif pour tous. Rokhaya Diallo, elle est arrivée à la télé après Éric Zemmour. Assa Traoré est devenue une égérie du mouvement antiraciste en France après la mort de son frère dans un commissariat de police. L'association LALAB, l'association féministe musulmane, s'est créée après toutes ces lois liberticides pour les femmes musulmanes qui portent le voile. Et tout ça, ça m'a fait m'interroger sur cette histoire de backlash. En ce moment, on parle beaucoup de backlash. J'ai pas du tout envie de critiquer Suzanne Faloudi, qui est une journaliste brillante, qui a écrit ce livre, qui avait très bien démontré dans les années 80 comment le discours féministe avait été méthodiquement taillé en pièces par les médias et par la recherche. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, on se trompe en parlant de backlash pour parler de ce qu'on vit, par exemple, quand on voit le nouveau livre de Pascal Bruckner ou quand on voit les insultes contre Alice Coffin sur Internet. C'est pas le backlash. Parce qu'en fait, le backlash, c'est nous. Le backlash, c'est nous. C'est nous qui avons dressé un mur contre la poussée d'idées conservatrices, racistes, misogynes, antisémites, islamophobes dans la société. C'est nous la réaction contre la réaction. C'est nous qui nous dressons avec nos corps et nos slogans contre cette vague brune qui commence à bien puer la merde jusque dans les colonnes de nos médias. En parlant de colonnes, vous avez vu qu'hier, dans la rue de Rivoli, il y avait des croix gammées, taguées sur les colonnes. Vous avez entendu les slogans homophobes qui étaient scandés samedi dernier à quelques rues d'ici ? Et c'est nous, les fauteurs de troubles ? C'est nous, les séparatistes ? Donc non, nous, on est la résistance, on est la force, on est le courage, et je trouvais ça important de sortir de cet imaginaire d'un petit mouvement protestataire qui serait en train de craindre le retour de bâton. C'est pas ça du tout. Nous, on résiste, et je trouvais ça important de commencer ce cycle en rappelant tout ça. Mais bon, je suis pas experte. Je suis pas experte en dates, je suis pas experte en histoire, et on va maintenant laisser la place à une véritable experte de l'histoire, une historienne et pas n'importe laquelle. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Bibia Pavard. Bonsoir Bibia.
Bonsoir.
Je suis très heureuse que tu sois là. On va se tutoyer parce que ça fait quelques années maintenant qu'on se connaît un petit peu. Alors tu es docteur en histoire contemporaine, maîtresse de conférences à l'université Paris 2 et chercheuse au Centre d'analyse et de recherche interdisciplinaire sur les médias. Tu es aussi la première savante que je reçois dans La Poudre pour cette cinquième saison que je veux un peu différente. Merci beaucoup.
C'est un honneur, merci beaucoup.
Merci d'être avec nous. Alors tu viens de sortir un livre co-écrit avec deux consoeurs historiennes, Michel Zancarini-Fournel et Florence Rochefort, qui portent ce très beau titre « Ne nous libérez pas, on s'en charge, une histoire des féminismes, le S est important, de 1789 à nos jours ». Et j'ai remarqué que depuis que ce livre est sorti, un livre colossal qui parle de deux siècles de féminisme, on te demande sans cesse dans les médias de commenter le temps présent, voire même de prédire l'avenir. Est-ce que c'est pas ça le paradoxe de l'historienne ?
Ah, merci pour cette question. Alors avant de commencer, je me permettrai juste de dire que voilà, je représente mes deux co-autrices aussi ce soir, Florence Rochefort et Michel Zancarini-Fournel, et que voilà, on ne pouvait pas être là toutes les trois, mais j'ai une pensée pour elles au moment où je parle en notre nom à toutes les trois. C'est vrai que c'est le paradoxe de l'historienne et en même temps, pas complètement, parce que les historiennes et surtout les historiens sont des habitués du débat public. Ils sont souvent appelés à commenter l'actualité, le contemporain, parce que l'histoire, c'est important pour essayer de comprendre ce qu'on est en train de vivre. Et donc, voilà, c'est un rôle assez traditionnel, on va dire. Cela dit, c'est vrai qu'il y a peu d'historiennes qui, habituellement, interviennent dans ce débat. Elles sont quand même assez marginalisées. Et donc, c'est à la fois un exercice qui est très intéressant, parce que, évidemment, les questions sur le passé, on se les pose depuis le présent. On est aussi porté par ce qui se passe aujourd'hui pour regarder différemment le passé et un inversement, le passé permet d'éclairer ce que je disais, le présent. Mais en même temps, l'histoire, c'est la nuance, c'est la volonté de replacer dans des contextes, comme tu l'as fait dans l'introduction, de rappeler les chronologies. Et souvent, cette nuance, elle a du mal à avoir sa place dans un débat qui est très antagoniste, très dur parfois, et qui ne laisse pas la place justement à cette complexité.
Le débat médiatique que tu connais bien. Alors j'avoue que j'avais un peu cette tentation-là hein, quand on voit le titre que j'avais pensé pour la conférence. Où en est-on ? Je suis un peu dans ce biais-là. Mais je pense qu'on a aussi la tentation, quand on fait partie du mouvement actuel, c'est de savoir en fait si on est en train de vivre un moment historique. Et d'ailleurs, c'est le cas puisque ce moment, il est décrit dans le dernier chapitre du livre. Vous le décrivez avec tes consoeurs comme le moment MeToo.
Oui.
Pourquoi le moment ? Et ça veut dire quoi, le moment en histoire ?
Alors, effectivement, le moment, c'est un concept qu'on utilise en histoire qui met l'accent à la fois sur la force d'un événement, mais aussi l'inscription de cet événement dans un temps plus long, dans le passé, et ce que ça nous projette sur le futur. Donc, c'est aussi une volonté d'essayer de comprendre en historienne ce que l'on est en train de vivre. C'est ce que font tout le temps les historiens et les historiennes, c'est-à-dire essayer de qualifier les périodes, leur donner des noms, essayer de trouver des bornes chronologiques, hein, c'est notre passion, on fait ça tout le temps. Et donc là, on a vraiment l'impression d'être dans un moment particulier, alors qu'on a observé à la fois par le renouveau des mobilisations, par la circulation médiatique extrêmement intense, par le poids des féminismes dans le débat public, hein, ce qui n'est pas vraiment le cas à toutes les périodes, effectivement. Et puis, on le voit aussi aussi avec la réception de notre livre, hein, « Ne nous libérez pas, on s'en charge », qui est porté par un écho médiatique, un écho aussi dans le public que l'on n'aurait jamais eu 10 ans auparavant. Donc on a pu aussi, puisqu'on est des historiennes qui travaillons depuis longtemps sur les mobilisations féministes, hein, surtout mes deux co-autrices qui ont été pionnières sur ces questions-là, on peut quand même voir aussi que le contexte de réception il a changé.
C'est intéressant cette façon de vous-même vous inscrivez dans cette histoire avec votre travail d'historienne. Enfin, il y a quelque chose d'assez vertigineux et d'un peu méta dans ce que tu es en train de
dire. Tout à fait. Là, je suis moi-même en train de vivre ce que j'étudie habituellement, c'est-à-dire les formes de circulation médiatique des idées féministes. Donc, c'est assez vertigineux, effectivement.
Alors, je crois qu'il y a aussi une urgence féministe à documenter le moment qu'on est en train de vivre, parce que écrire une histoire féministe, comme vous le faites avec tes consoeurs, c'est lutter contre l'effacement. Cette notion d'effacement, elle est vraiment centrale dans les luttes féministes. On n'a qu'à penser, par exemple, à la création du MLF, dont on a fêté les 50 ans tout récemment, le dépôt d'une gerbe pour la femme du soldat inconnu, encore plus inconnu que le soldat inconnu. Et moi, en lisant votre livre, j'ai été complètement frappée par le nombre de noms de militantes dont je n'avais jamais entendu parler. Alors je vais les citer parce que c'est important de dire leur nom. Je vais les citer lentement par respect pour les interprètes. Reine Chapuis, André Léo, Maria Derem, Lucie Cousturier, Nelly Roussel, Denise Morand, Suzanne Roussy-Césaire, Joëlle Brunerie. Ça n'est vraiment qu'un tout petit échantillon, et c'est celles qui m'ont le plus frappée par leur action. Des Amazones, des artistes, des intellectuels, des médecins passés aux oubliettes. À votre avis, elles ont été effacées parce que femmes, à ton avis plutôt, ou parce que féministes ?
Alors je pense que c'est vraiment les deux qui se conjuguent. Effectivement, le champ de l'histoire des femmes s'est vraiment construit avec l'idée qu'il fallait redonner une place aux femmes dans le récit historique, dire qu'elles existaient si on allait les chercher dans les archives, qu'on pouvait trouver des traces là où on nous disait que c'était trop compliqué parce qu'effectivement, l'histoire s'était centrée sur des hommes, des grands hommes, des personnalités connues et reconnues. Et donc, du coup, ça a accompagné cette volonté d'aller éclairer des pans de la société qui restaient dans l'ombre de cette manière d'écrire l'histoire. Donc, effectivement, les femmes ont été effacées du récit historique. Donc, il est important de leur redonner voix. Et puis aussi, les féministes ont été particulièrement oubliées. Moi, j'ai le souvenir d'une action que nous avions faite avec l'association Archives du Féminisme autour des fiches Wikipédia. Des féministes après la publication du dictionnaire des féministes en France dirigé par Christine Barre et Sylvie Chaperon. Et donc on a commencé à regarder quelles féministes avaient des fiches Wikipédia. Et déjà c'était vraiment catastrophique. Et en plus, voilà, effectivement il y a une association qui s'occupe de cette question qui s'appelle les 100 pages, 100 S-A-N-S, qui montre bien en fait la sous-représentation des femmes dans Wikipédia. Alors c'est qu'un exemple, mais ça reproduit encore quelque chose qui est plus général dans la société, c'est que elles ne sont pas visibles, elles ne sont pas connues. Et quand on cherche par exemple la fiche Wikipédia de Joëlle Brunerie, qui est effectivement une gynécologue militante des années 70, eh bien la fiche va passer plus de temps à décrire ses relations avec son mari, parce que son mari était journaliste, il a été enlevé au Liban dans les années 80, et que Joëlle Brunerie, elle a été très active pour essayer de le faire ramener. Mais c'est intéressant de voir aussi que Suzanne Césaire, c'est pareil, c'est la même chose, on connaît son mari, on ne la connaît pas elle. Donc effectivement, ce sont des phénomènes qui se conjuguent, je pense, pour effacer doublement les féministes.
Je me demande s'il n'y a pas aussi quelque chose qui est lié, en ayant un peu plus lu leur histoire. On voit aussi que dans des vies féministes, il y a un effacement même qui a lieu pendant la vie. Je pense à Madeleine Pelletier, par exemple, qui était voilà, une militante extraordinaire, une psychanalyste, une des premières personnes à vraiment questionner le genre dans sa façon de se présenter au monde, bon, même s'il y avait Jeanne d'Arc avant, mais ça, je dis vague. Et elle a fini dans un asile complètement oublié. Enfin, Terouane de Méricourt, c'est la même chose. Quand on voit même d'autres militantes comme Eugénie Dibouillet, ou qui sont en fait littéralement enlevées leurs moyens d'expression, elles sont silenciées en fait de leur vivant, ces femmes.
Oui, alors et c'est pour ça que les mouvements féministes, les mobilisations féministes se sont toujours accompagnées de la volonté de décrire l'histoire des femmes et d'écrire l'histoire des féminismes. Et donc, voilà, les Saint-Simoniennes ou les militantes féministes de la Troisième République vont rappeler le combat des femmes pendant la Révolution française. Marguerite Durand, qui est cette militante journaliste féministe de la Belle Époque, va créer une bibliothèque qui existe encore aujourd'hui pour pouvoir justement conserver à la fois les combats passés et contemporains. Donc, de la même façon, le mouvement de libération des femmes dans les années 1970, c'est aller redécouvrir cette histoire, ces figures que tu as évoquées, pour pouvoir voilà, leur redonner une place dans l'histoire. Et donc, c'est à chaque mobilisation, il y a un moment où il faut se retourner vers le passé pour se donner une épaisseur, pour se donner des modèles, pour rappeler l'intensité de ces combats sur le temps long, et s'inscrire dans une généalogie. Finalement, c'est absolument nécessaire, et donc on voit se reproduire les combats pour nommer les rues, pour le Panthéon. Donc c'est quelque chose qui est central, et aujourd'hui on a tout un discours aussi dans les mobilisations actuelles sur la volonté de retrouver des femmes inspirantes. Alors, je ne suis pas fan de ce terme, mais effectivement, ce que l'on voit, c'est tout simplement la nécessité d'aller rechercher dans l'histoire des modèles qui puissent montrer la force de ces combats qui ont existé.
Et enlever l'impression qu'on a de toujours recommencer de zéro, alors que tant de femmes avant nous ont fait ce qu'on avait fait. Oui. Quand j'ai découvert Marguerite Durand, j'ai été un peu choquée de voir cette journaliste blonde des années 1915-20 qui avait créé La Fronde. Enfin, c'est un peu bizarre. Bon. quand même. Alors, il y a des femmes qui sont encore plus effacées que les autres. Ce sont les femmes non blanches du mouvement féministe. J'ai découvert l'existence de Anna Julia Cooper, la première femme noire à soutenir une thèse d'histoire en Sorbonne en 1925. Elle avait 67 ans. Oui. Ou alors les sœurs Paulette et Jeanne Nardal, peut-être Jane d'ailleurs, des bourgeoises martiniquaises, oui, qui ont fait éclore dans leur salon la pensée de la négritude dans les années 30. Oui. C'était important aussi pour vous de venir combler ces angles morts?
Alors, c'était important à plusieurs titres, parce que ce qu'on a voulu montrer dans ce livre, c'est que la catégorie femme qui est défendue par les féministes est en fait plurielle. Elle est traversée de conflits, d'inégalités qui se sont exprimées tout au long de l'histoire. Et puis, effectivement, il était aussi important de montrer pour nous qu'il y a certaines femmes qui sont dominantes par rapport à d'autres et qui ont accès à des ressources que les autres n'ont pas, ne serait-ce que l'éducation, ne serait-ce que la culture, l'argent, évidemment, et puis un statut qui permet d'avoir accès quand même à un certain nombre, à la voix dans l'espace public. Donc c'était pour nous important, effectivement, de redonner des portraits de femmes non blanches, de femmes noires, de femmes colonisées, qui ont aussi participé à ces combats et qui sont effectivement là encore invisibilisées, et pourtant pour lesquelles on a des archives, on a des sources. Les sœurs Nardal, c'est tout à fait caractéristique, parce que quand on parle de la négritude comme courant à la fois politique et littéraire, évidemment on pense à deux hommes, Senghor et Aimé Césaire, et on ne pense pas à ces sœurs Nardal qui pourtant tenaient ce salon qui a été une plaque tournante pour l'émergence de cette pensée. parce que elle était en plus entre voilà dans cet espace entre les Antilles, les États-Unis, la France, et que elles essayaient effectivement de penser qu'est-ce que ça voulait dire que cette identité noire colonisée dans les années 1930, et elles essayaient aussi de penser la place spécifique des femmes dans cette identité. Donc elles ont été redécouvertes par plusieurs travaux ces derniers temps, et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que nous on a pu les mettre dans cet ouvrage parce qu'il y a de plus en plus de travaux aussi, de thèses, de mémoires de master qui s'intéressent à ces questions et qui font émerger ces figures et qui permettent ensuite voilà, de les réintégrer dans un récit qui parfois est un peu routinisé et qu'il faut bousculer pour essayer de saisir dans sa complexité.
Ouais, d'ailleurs c'est vrai qu'il y a aussi un foisonnement de mentions d'historiennes, de chercheuses, de doctorantes dans ce livre, enfin, la boucle est encore là, vous faites exister aussi la recherche actuelle en histoire, c'est une recherche qui est menée beaucoup par des femmes, par des historiennes.
Oui, alors c'est effectivement notre volonté, c'était ça. On a négocié pas trop longtemps, ça n'a pas été trop compliqué de négocier chez notre éditeur la découverte, d'avoir des notes de bas de page, une bibliographie fournie, parce que notre idée c'était aussi effectivement de permettre d'aller plus loin si on avait envie d'approfondir, mais aussi de rendre famage, on va dire, à tous ces travaux et voilà. Je ne sais pas comment on peut traduire rendre famage en manque de signes.
Bon alors, c'était une longue introduction parce que je voulais qu'on parle de cette notion d'effacement et de silenciation. Et avant de plonger vraiment les deux filles dans la révolution féministe, je voudrais qu'on apprenne un tout petit peu mieux à te connaître, Vibia. Comment es-tu devenue historienne ?
Vaste question. Je pense qu'on devient historienne à la fois parce qu'on a un amour des récits, des histoires d'abord, effectivement. Et donc là, ça renvoie à une histoire familiale. Donc, effectivement, moi, j'ai une maman qui m'a beaucoup raconté l'histoire, qui m'a raconté l'histoire des histoires, sa propre histoire, l'histoire familiale. Et donc, ça m'a toujours passionnée. Et puis ensuite, je pense que c'est aussi une série de rencontres lors des études, tout simplement. Vraiment des profs d'histoire qui donnent envie, en fait, de suivre cette voie progressivement. Donc, effectivement, j'ai fait une prépa Hippocagne et à Saint-Sernin à Toulouse, et j'ai vraiment eu des profs qui m'ont montré que l'histoire c'était pas ce que j'apprenais au lycée, c'est-à-dire des dates, des noms, des choses qui étaient un peu rébarbatives, voilà, des noms d'hommes, des voilà, mais que c'était aussi analyser des mécanismes de pouvoir, des relations complexes, des représentations, et c'était un peu une histoire marxiste. Maintenant que avec le recul, je vois bien ça, mais qui s'intéresse à la dimension économique et sociale, et comment elle traverse toutes les représentations culturelles et politiques. Donc tout ça, ça m'a vraiment passionnée. Et par contre, voilà, comment je suis devenue historienne des femmes du genre et des féministes, c'est une autre question, parce que c'est venu plus sur le tard, parce que justement, voilà, toutes ces premières années en prépa, au début en licence, il n'y avait pas de cours d'histoire des femmes et du genre. Ce n'est que progressivement que j'ai rencontré ces cours. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, ah, c'est exactement ça qu'il faut que je fasse. J'adore l'histoire. Et en plus, bon, j'ai une socialisation féministe, donc je me sentais féministe. Et donc là, tout d'un coup, j'ai pu faire rencontrer à la fois qui j'étais, mon histoire familiale, avec une ambition professionnelle. Et ça m'a tout à fait convenu.
Oui, parce qu'en fait, c'est une lignée à laquelle vous appartenez. Je vous ai entendu dire, on s'est vu récemment, je me mets à te vous voyez, je reviens. En fait, j'ai écrit vous sur mon papier. Donc,
c'est parce qu'on est trois à écrire le livre, c'est pour ça qu'on peut dire.
Parfois, il y a des vous, c'est ça. Ça m'embrouille un peu. Donc, je t'ai entendu dire à Strasbourg que tu étais la troisième ou quatrième génération d'historienne du genre. Donc, il y a Michel Perrault, Christine Barre et Sylvie Chapiron que tu as
cité.
Chapron. Et c'est intéressant parce qu'on observe en fait un glissement de l'histoire des femmes, qui était plutôt le propos de Michel Perrault dans les années 90, quand elle a sorti ses livres qui ont vraiment beaucoup marqué, vers une histoire des féminismes aujourd'hui. Est-ce que c'est un glissement logique ?
Alors déjà, oui, alors il y a eu disons que l'histoire des femmes et des féministes est quand même construite de façon parallèle dès les années 70-80. en considérant que voilà, c'était une branche de l'histoire des femmes que l'histoire des féminismes. Après, on a vraiment observé un glissement dans les années 1990 autour de la question du genre, et ça a vraiment renouvelé aussi les approches. Donc essayer de travailler non seulement à visibiliser les femmes, mais aussi à comprendre les mécanismes de reproduction de pouvoir à travers les constructions du masculin et du féminin qui évoluent dans l'histoire. Et donc ça a été aussi intellectuellement très stimulant pour ce courant d'histoire des femmes. Mais l'histoire des féminismes, effectivement, je suis issue de plusieurs générations de chercheuses qui ont fait des thèses. Florence Rochefort, qui est co-autrice avec moi, a écrit une des premières thèses soutenues en France en 1987 sur les féministes de la Troisième République. Et puis ensuite, voilà, ça s'est transmis progressivement. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ce domaine, dans ce champ de l'histoire, il y a vraiment une solidarité intergénérationnelle et aussi entre pairs, on va dire, de cette volonté vraiment de travailler ensemble, de partager les savoirs autour de certaines instances comme des revues, par exemple la revue Clio Histoire, Genre, Société, qui est une revue qui, depuis les années 90, a vraiment travaillé aussi à installer l'histoire des femmes et du genre dans le champ historique. Donc voilà, il y a vraiment eu une transmission que j'ai pu vivre aussi très intimement avec mes deux co-autrices, parce que c'est pas rien de pouvoir écrire un livre en étant trois femmes, trois historiennes de trois générations différentes, et d'avoir été traitées sur un pied d'égalité par d'immenses historiennes et chercheuses. C'est quand même très très significatif de la manière de concevoir le savoir, sa transmission de manière collective dans ce domaine de l'histoire.
Vous cassez la verticalité qui est très en jeu dans l'université habituellement, quoi.
Exactement. Mmh.
Alors, c'est important de comprendre comment on fait l'histoire. Pour faire de l'histoire, il faut des archives, il faut voir des textes. Et encore une fois, les archives qui concernent les femmes, elles ont tendance à être plus fragiles que les autres.
Alors déjà, elles ont tendance à être moins conservées, à être moins visibles. Alors c'est particulièrement vrai. Donc du coup, je vais en profiter pour faire un appel aux organisations féministes d'aujourd'hui. C'est particulièrement vrai pour les associations féministes, parce que quand on est dans l'action, on est dans le présent. On ne pense pas en fait à conserver ces archives, ou pas toujours. Et donc c'est très important au contraire de les garder et de les déposer à des fonds, à la bibliothèque Marguerite Durand qu'on a évoquée, au Centre des archives du féminisme à Angers par exemple, et de permettre en fait de recueillir ce matériau qui sinon ne sera pas effectivement conservé. Il ne va pas y avoir de grande collecte nationale sur les archives féministes, en tout cas j'en doute.
Ah mais c'est hyper numérique aujourd'hui les archives du féminisme.
Et par ailleurs,
archiver nos lives Instagram quoi.
Et effectivement, il faut en plus penser, et bon ça c'est vrai pour tout. Toutes les archives actuellement, il faut penser à archiver les mails, archiver les campagnes en ligne, Instagram, etc. Donc c'est pas évident, mais voilà, il y a vraiment une nécessité de penser aussi à l'écriture de l'histoire dans le futur quand on est dans l'action. Et donc c'est vrai qu'il y a cette fragilité, mais il y a aussi une force qui est tout un ensemble de structures qui quand même existent en France, mais aussi partout dans le monde, hein, pour essayer justement de conserver tout ça et de ne pas laisser se perdre ces archives souvent fragiles.
Et puis, est-ce qu'ils sont traités avec un certain manque de respect, hein ? Je me rappelle des mobilisations il y a 3 ans déjà, concernant la bibliothèque Marguerite Durand, qui allait tout simplement être fusionnée avec la bibliothèque d'histoire de la ville de Paris. Je crois que c'était ça le projet, oui, comme si ce n'était pas un projet qui avait été porté par une femme avec une vraie signification politique derrière. Mmh. Enfin,
plus, c'est juste une petite mezzanine. Enfin, c'est pas non plus comme si ça occupait.
Oui, exactement. Ça a été un choc, hein, même si il y avait toute une série de justifications. Voilà, manque d'espace, manque de fréquentation. Bah, évidemment, quand on est une bibliothèque patrimoniale et d'archivistique, on a moins de fréquentation qu'une bibliothèque ouverte au public de près, hein, de la ville de Paris. Pour essayer de la fusionner avec la BHVP, donc la bibliothèque historique de la ville de Paris. Et effectivement, ça, tout d'un coup, cette bibliothèque qui, depuis 1936, avait vraiment une identité extrêmement forte sur cette volonté d'être un lieu qui a d'ailleurs été un lieu qui a perduré et qui a permis ces transmissions de génération en génération. Chaque génération militante redécouvre la bibliothèque Marguerite Durand, heureusement qu'elle est là. Et donc, tout d'un coup, elle perdait son identité, elle perdait sa spécificité. Heureusement, le contexte, on n'était pas encore, on était avant MeToo, hein, mais ce contexte de remobilisation féministe a fait que ça a permis, d'ailleurs, tu as participé à cette mobilisation, ça a permis en fait de stopper le projet et de la garder là où elle est. Mais je pense qu'il faudrait un lieu bien plus ambitieux, hein, et un lieu propre, peut-être. C'est à ça qu'il faudrait réfléchir maintenant.
Il y avait aussi une menace qui pesait quand on s'était parlé sur France Inter dans Les Savantes sur les archives de l'IVG. Je voulais te demander des nouvelles des archives de l'IVG.
Ben, on a gagné, hein. Elles vont être conservées. Effectivement, tout d'un coup, il y a eu la volonté de détruire ces archives très sérielles, effectivement, qui prenaient beaucoup de place aux archives nationales, de fiches d'enregistrement des IVG. Donc depuis la loi Veil de 1975, en fait, il est obligatoire de remplir des fiches pour simplement compter le nombre d'IVG. Et donc, ces fiches qui sont anonymes, mais qui donnent beaucoup d'informations sur les lieux, sur les méthodes, sur qui pratique ces IVG, etc., on voulait faire de la place, les détruire. Et donc, quand on a été alerté par une syndicaliste des archives avec Michel Zancarini-Fournel sur cette question, on s'est dit que c'était vraiment dommage parce que là, on avait vraiment une belle source d'archives pour faire l'histoire sociale de l'avortement qui allait disparaître. Et finalement, bon, cette mobilisation a permis de les conserver. Donc voilà, il faut sans arrêt être vigilante.
Se battre tout le temps, quoi. C'est tellement épuisant. On ne peut jamais se reposer. Ah, c'est bon. D'ailleurs, bah, le champ de la recherche sur l'IVG, sur la contraception, c'est un endroit que tu as beaucoup exploré en tant qu'historienne. C'est un peu là que tu as commencé. C'est un peu aussi ta période, cette période-là. Oui. Et je me posais une question récemment. On a vu à l'Assemblée nationale, dans le cadre de la proposition de loi qui abroge notamment la clause de conscience pour les médecins. On ne s'est pas gagné, il faut que ça aille au Sénat, mais bon, ça va dans le bon sens. On a vu des députés macronistes, habituellement plutôt conservatrices, faire des plaidoyers vibrants pour le droit des femmes à disposer de leur corps par l'avortement. Est-ce que cette espèce de consensus autour de l'IVG a toujours été là dans l'histoire des féminismes ?
Ouais, non, c'est vrai que c'est là que l'histoire a son importance, c'est là que la chronologie a son importance, c'est là que le contexte est intéressant à scruter, parce que effectivement, donc moi j'avais fait ma thèse sur les questions de contraception et d'avortement des années 50 à la fin des années 70, et justement je m'étais intéressée à comment la loi, la société, les représentations avaient pu évoluer autour de ces questions, et donc les mobilisations pour la libéralisation, voire la libération de la contraception et de l'avortement, l'écho médiatique et puis le processus législatif. Et donc, au contraire, on était face vraiment à des oppositions extrêmement fortes, alors entre des conceptions du monde totalement opposées. Est-ce qu'il fallait laisser la liberté au couple d'abord ? Est-ce qu'il fallait laisser les femmes disposer de leur propre corps ? Est-ce qu'il fallait s'intéresser davantage au fœtus, à l'enfant à naître? Est-ce qu'on n'était pas sur des questions de... on était sur des questions de vie ou de mort et de conception, en fait, de, aussi religieuse ou non religieuse du monde. Donc, vraiment des oppositions très, très fortes qui, à l'Assemblée nationale et au Sénat, sont passionnantes à étudier parce que c'est vraiment très... très intrense, les oppositions sont très vives, les moqueries, les insultes fusent. Et donc ce débat-là, il a été très, très intense dans les années 70, encore vrai dans les années 80. Dans les années 90, il y a une remobilisation contre la liberté de l'avortement, puisque c'est à ce moment-là qu'a été voté le délit d'entrave à l'IVG en France. Mais ce n'est que progressivement que vraiment un consensus est en train de se faire, mais un consensus qui est quand même assez fragile et qui est grignoté à la fois par des oppositions qui existent encore, hein, elles se sont renouvelées, elles se sont modernisées. Aujourd'hui, voilà, on a des actions beaucoup plus aussi modernes d'un point de vue de la communication politique autour de la lutte contre l'IVG. Donc, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais en gros, on a une transformation de ce débat. Mais aussi, ce qui est intéressant à voir, c'est ce que tu décris, c'est-à-dire un consensus quand même qui se forge autour de l'idée que c'est un droit, et c'est un droit sur lequel on ne va pas revenir, et qui fait vraiment... c'est-à-dire un consensus, c'est-à-dire qu'une majorité de la population est tout à fait d'accord avec cette idée, et ça, c'est quelque chose que l'on doit... aux mobilisations féministes. Si elles n'avaient pas été là pour porter ce combat, justifier, donner les arguments, si elles n'avaient pas été là aussi comme relais dans les institutions pour fabriquer la loi, pour l'améliorer, parce que c'est une loi qui en fait était très restrictive au départ et qui a été améliorée progressivement dans les années 80, 90, 2000 et encore aujourd'hui. Donc si on n'avait pas eu tout ça, on n'aurait pas pu voir émerger ce consensus.
D'ailleurs, c'est parfait comme enchaînement, parce que ce qu'on entend dans ce que tu décris, c'est cette notion de continuité du combat entre 68 et 2020. En fait, il n'y a eu aucun moment où les féministes ont dit « Ah, bah, on range nos cartables au placard, on va pouvoir se reposer, puis dans 20 ans, on reviendra. Mmh. » Et en fait, c'est une façon d'amener cette idée de vague que toi, tu contestes voilà, en tant qu'historienne. Dans le livre aussi, c'est dit que dans votre représentation des choses, il n'y a pas ces trois, voire quatre vagues qui sont habituellement décrites. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, pour toi, il n'y a pas de vagues?
Alors, contester, ça serait peut-être un terme un peu fort. Parce qu'effectivement, je pense qu'il y a une utilité à la fois militante et sociale à utiliser ce terme de vague. C'est-à-dire, justement, on en revient à cette idée de s'inscrire dans un temps long et en même temps, une volonté de renouveler un combat en l'inscrivant dans un contexte spécifique. Donc, la première vague qui serait née du milieu des années, du milieu du 19e siècle jusqu'à aux années 1930, la deuxième vague qui aurait émergé dans les années 1960-70, la troisième plutôt dans les années 90-2000, et puis aujourd'hui, un certain nombre de militantes féministes revendiquent d'une quatrième vague, voire d'une cinquième vague. Elle a une utilité politique, parce que ça permet justement de s'affirmer à la fois héritière, et puis de quand même vouloir montrer qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se jouer, ce qui est tout à fait normal pour les nouvelles générations féministes. En histoire, ça a eu une utilité à un moment donné parce qu'il s'agissait aussi de penser un des mouvements sociaux les plus longs de l'histoire et essayer de comprendre voilà, comment il fonctionne, comment à certains moments il y a effectivement des moments d'explosion, des moments de surgissement, et puis il y a quand même des moments plus calmes. Hein, donc la métaphore des vagues permet de dire cela, mais elle pose un certain nombre de problèmes, cette métaphore, notamment elle ne permet pas justement d'insister sur les continuités, sur le fait qu'on a des personnes qui ont milité, voilà, effectivement c'est un très bon exemple, depuis 68 jusqu'à aujourd'hui sans s'arrêter, qu'on a des structures qui perdurent, on a des combats qui sont sans cesse renouvelés mais qui sont là depuis très longtemps. Donc voilà, il y a cette question de continuité, et puis il y a aussi un autre problème avec cette métaphore des vagues, qu'elle a tendance à faire croire que lorsqu'on est dans un haut de la vague, on est dans quelque chose qui est très unifiant, alors que les mobilisations féministes, c'est ce qu'on montre dans l'ouvrage, elles sont sans cesse divisées, fracturées par des différences idéologiques, d'approche, par des différents modes d'action. Et donc, voilà. Et alors, ce qui pose encore plus problème aux historiennes, c'est que tout d'un coup, les vagues s'accélèrent. Donc, on en est à la la quatrième et la troisième, quand est-ce qu'elle s'arrête ? Voilà, on en revient à cette question de périodisation, ce qui me fait dire qu'aujourd'hui, cette notion de vague, c'est aussi une notion identitaire, c'est-à-dire c'est une forme d'identification politique spécifique, plus qu'un discours sur une période historique. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de ne pas l'utiliser dans l'ouvrage, même si moi je suis tout à fait consciente aussi que voilà, il y a une certaine facilité aussi à avoir recours à cette métaphore pour expliquer quelque chose qui s'inscrit dans un temps très très long.
J'aime bien aussi la façon dont tu expliques que en fait, les vagues, elles ont aussi été nommées toujours a posteriori. Voilà. Enfin, c'est les féministes d'après qui disent « Ah, mais ça, c'était une vague !» Enfin, quand on est dans la vague, on la voit pas. Enfin...
C'est-à-dire que, et en plus, les féministes de la génération d'avant, en général, résistent. Elles disent « Non, non, c'est toujours la même vague, et c'est nous qui l'avons commencé. » Donc, c'est vrai que c'est assez compliqué.
Alors j'ai essayé de tirer en fait dans votre livre ce qui nous amène au temps présent. Il y en a un qui est flagrant, c'est l'antiféminisme. Oui. Quand on lit ce qu'on disait d'Olympe de Gouges en 1793, je vais prendre un petit moment, c'est son épitaphe, hein, c'est ce qui a été publié le lendemain de sa décapitation, évidemment, dans un petit journal révolutionnaire. Née avec une imagination exaltée, elle prit son délire pour une inspiration de la nature. Elle voulut être un homme et adopta des projets perfides qui voulaient diviser la France. En 1848, on parle là d'Eugénie Nibouillet et de Jeanne de Roing. Moi, c'est mes chouchoutes. Franchement, si vous voulez aller en regarder une, c'est Eugénie Nibouillet. C'est vraiment ma préférée. Et qui était, selon l'historienne Maïté Bouissy, assimilée à des insurgés, pathologisée, incarnation d'une furie révolutionnaire et caricaturée avec rage et férocité. Je voulais prendre le temps de lire tout ça parce qu'en fait, c'est Alice Coffin. C'est exactement ce qu'on dit d'Alice Coffin aujourd'hui, c'est exactement le même traitement, la caricature outrageuse, le mégenrage, la psychophobie, enfin tout est là. Est-ce que l'antiféminisme non plus ne connaît pas de vague ?
Alors c'est marrant parce que tu as...
J'ai dit antisémitisme,
oui, t'as fait un lapsus. Et c'est intéressant parce qu'en général ça va ensemble en fait, c'est pas simplement un antiféminisme, c'est aussi...
Le correcteur orthographique aussi qui connaît pas ce mot et qui a marqué antisémitisme.
Mais disons qu'effectivement c'est assez impressionnant de voir les invariants dans ces discours antiféministes. Alors il faut d'abord voir que ces mobilisations féministes elles naissent d'un discours qui est extrêmement misogyne et qui veut enfermer les femmes dans leur nature, une nature qui justifierait leur statut inférieur. Donc les féministes prennent la plume, agissent pour essayer de prouver que tout ça c'est faux, hein, évidemment, et qu'il faut, aspirer à une véritable égalité, à un véritable universalisme dans les droits, dans la liberté. On a déjà ça, et puis ensuite il y a des réactions à ces mobilisations féministes qui sont toujours vues dans l'excès, effectivement, l'idée de furie. Alors on les retrouve, les tricoteuses pendant la Révolution, les pétroleuses pendant la Commune, on retrouve les images, ces mêmes types d'images dans les années 1970, et puis on les retrouve encore aujourd'hui. C'est toujours dans l'excès, c'est toujours trop, alors que effectivement il y a eu dans l'histoire des formes de radicalité politique qui ont été nécessaires justement pour bousculer cet ordre de genre qui a tendance à enfermer les femmes dans un certain rôle. Et donc évidemment que les féministes sont radicales parce qu'elles ont un regard qui veut changer la société parce qu'elles veulent justement... recourir à cette véritable égalité qu'il aurait refusée. Donc il y a une dimension forcément radicale et qui forcément dérange dans l'histoire. Donc cet antiféminisme, ces antiféministes, parce qu'ils sont pluriels, ils peuvent être conservateurs, ils peuvent être religieux, ils peuvent être de gauche aussi, socialistes. Il y a tout un passage dans les livres sur Proudhon et sa misogynie.
J'ai une petite citation de Proudhon.
Bah, oui,
elle est bien. On dirait du Catherine Millet. Elle dit, il dit, oui, parce que ça peut être aussi des femmes.
Tout hein, à fait, évidemment, rappelons-le.
Voilà, les femmes ne rechignent pas à être un peu violentées, voire même violées.
Voilà. Oui. Alors effectivement, Proudhon, c'est un...
Je vais garder pour plus tard.
Pardon, du coup j'ai... c'est important parce qu'il a été un penseur essentiel du socialisme et de l'anarchisme en France, et donc il y a eu quand même un antiféminisme qui a été aussi porté par ces mouvements ouvriers pendant longtemps. Donc il est pluriel, il est renouvelé. L'historienne Christine Barr parle d'intersectionnalité des haines, c'est-à-dire qu'il se croise cet antiféminisme à l'antisémitisme, au racisme, à l'homophobie, et donc il est sans cesse renouvelé, mais il y a quand même ces formes d'invariants. Et c'est quand même intéressant de se souvenir que le terme féministe lui-même a été forgé comme une insulte en 1872 par Alexandre Dumas fils, qui se référait aux hommes qui défendait l'égalité à ce moment-là entre les femmes et les hommes au début de la Troisième République. Et donc, être féministe pour lui, c'était être un homme qui n'en était pas véritablement un, être une femmelette, en gros, c'était ça l'idée. C'était un stigmate au départ, ce terme, qui ensuite est retourné. Hein. Un certain nombre de militantes vont se l'approprier et en faire un terme positif, hein, à commencer par la militante Hubertine Auclair. Et donc, voilà, il y a... C'est assez intéressant de voir qu'on ne peut pas penser les mobilisations féministes sans penser l'antiféminisme qui s'y oppose. Et c'est pour ça que cette idée de backlash que tu as un peu déconstruite au début, elle est juste dans l'idée qu'il peut y avoir des moments de reflux, mais c'est aussi que ce backlash, il est contemporain aussi aux mobilisations, c'est-à-dire qu'il y a toujours des contre-mouvements extrêmement forts.
Ouais. Ça me faisait penser à cette phrase de Virginia Woolf. L'histoire de l'opposition des hommes à l'émancipation des femmes est peut-être plus intéressante encore que l'histoire même de cette émancipation. Est-ce que tu approuves ?
En tout cas, il faut l'étudier et il faut vraiment le comprendre comme une dialectique, parce qu'on ne peut pas comprendre Alice Coffin aujourd'hui si on ne comprend pas contre quoi elle s'oppose aussi. Donc voilà.
L'intersectionnalité des haines de Christine Barr, c'est une magnifique notion. Ça justifie mon lapsus en plus, j'adore. L'un des aspects le plus passionnant de votre livre, ça concerne l'intersectionnalité. Alors cette approche intersectionnelle, tu la revendiques dans l'introduction avec tes consoeurs en tant qu'historienne. Pourtant, c'est complètement anachronique d'employer ce mot pour parler de la Révolution française au XIXe siècle. Ce mot, il apparaît dans les années 90, enfin en 90, dans la bouche de la juriste américaine Kimberlé Crenshaw. Et pourtant, et je m'en suis vraiment rendu compte en lisant le livre, les luttes contre le sexisme et le racisme sont en fait complètement entremêlées dès le début, c'est pas un phénomène nouveau en réalité.
Oui, alors effectivement, ce terme d'intersectionnalité, il est à la fois très polémique aujourd'hui dans le débat contemporain, mais il faut se rappeler que c'est d'abord un concept théorique qui visait à penser justement ces divisions et ces inégalités à l'intérieur des différentes catégories sociales et en particulier de la catégorie femme, qui faisait que lorsqu'on était une femme noire pauvre aux États-Unis, on avait du mal à jouir des droits qui avaient été promus pour les noirs, qui favorisaient davantage les hommes noirs, et des droits pour les femmes qui avantageaient davantage les femmes blanches. Et donc, elle théorise, Kimberlé Crenshaw, cette idée d'intersectionnalité pour penser justement cet espace dans lequel on peut tomber lorsque on est à la croisée de plusieurs dominations. Et donc, c'est effectivement un concept très contemporain. Mais les historiennes et historiens font cela, en fait. Hein. Ils réfléchissent à comment penser le passé avec les outils d'aujourd'hui. C'est aussi ce qu'on a fait avec l'outil genre, hein, qui évidemment est anachronique aussi. Hein. Le concept est forgé dans les années 1980-90. Donc, c'est la même chose. Mais par contre, effectivement, ça nous a amené à la fois cette conceptualisation et les revendications intersectionnelles aujourd'hui. Ça nous a amené à essayer de voir comment on pouvait penser le passé à travers ces questionnements. Et effectivement, on s'est aperçu que la pensée de l'égalité entre les femmes et les hommes était, dès la Révolution française, articulée à la pensée de l'égalité entre les esclaves et ceux qui les rendent esclaves, hein, donc entre les noirs et les blancs, et donc qu'il y avait une convergence théorique, c'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de penseurs et de penseuses qui pensaient l'anti-esclavagisme et qui pensaient aussi cette égalité entre les femmes et les hommes. Donc il y avait une articulation théorique que l'on retrouve ensuite chez des penseuses et des militantes que tu as évoquées en 1848. Et puis, évidemment, ça se décline à toutes les périodes. Donc ça nous a permis aussi de voir comment s'articule en fait, par exemple, la métaphore de l'esclavage. C'est une métaphore qui est très utilisée aussi pour décrire la situation des femmes dans la société. Donc, il y a un écho qui se joue aussi à ce niveau-là. Donc, c'est le premier niveau. Et puis, le deuxième niveau, c'était aussi une volonté de penser les inégalités à l'intérieur des mouvements féministes et de montrer qu'il y avait quand même des dominantes et des dominés, qu'il y avait les mobilisations féministes, elles étaient traversées par ces questions de classe sociale, par ces questions raciales, par ces questions de coloniales aussi, qu'il y avait des féministes colonialistes, qu'il y avait des féministes anticolonialistes, d'autres qui étaient ambiguës un peu entre les deux, et donc essayer de montrer justement cette complexité et de sortir parfois d'une lecture un peu simpliste d'un côté les féministes blanches, de l'autre côté les féministes noires. Donc effectivement, ce sont des catégories qui sont complexes des deux côtés. Et donc c'est vraiment ce qu'on a voulu mettre en lumière dans ce récit.
Le livre fait vraiment bien le job de réintroduire de la nuance et de la complexité, et c'est en ça qu'il est passionnant. Et j'aime bien aussi un moment où on comprend très bien comment dire, on utilise presque la métaphore du racisme et de l'esclavage pour expliquer la domination sexiste. Et ça m'a allumé une lumière concernant le débat qu'il y a eu récemment sur l'hymne des femmes, où il y a cette phrase « Debout, femmes esclaves » qui choque à juste titre et qu'on a modifié, et c'est très bien. Mais je trouve que quand on a la perspective historique, on comprend mieux en fait cette phrase.
On comprend mieux dans le contexte du début des années 70 pourquoi en fait elle est utilisée, parce qu'effectivement une métaphore qui permet aussi d'attirer l'attention sur une inégalité qui semble moins évidente, par exemple à l'extrême gauche, que le racisme. Et donc c'est aussi parce que les mobilisations féministes des années 70, elles sont inspirées des mobilisations pour les droits civiques et contre le racisme aux États-Unis. Et cette volonté de s'organiser en tant que noir pour revendiquer des droits, c'est un modèle aussi pour les féministes des années 70 de dire, nous aussi, on va s'organiser en tant que femmes et revendiquer nos droits et revendiquer cette non-mixité. Donc voilà, ça, c'est important aussi de comprendre les paroles de cette chanson dans le contexte dans lequel elles ont été écrites.
Par Monique Wittig, sûrement, en plus.
Alors, c'est un groupe, c'est un collectif, c'est pas évident de savoir exactement qui l'a écrit, mais effectivement, Monique Wittig a participé à plusieurs collectifs qui ont écrit de très belles chansons en ce tout début des années 1970. Oui.
Donc il y a une autre thématique, tu l'as rapidement abordée, c'est celle des divisions au sein du mouvement féministe, ça non plus, ça date pas d'hier. Et moi, j'ai l'impression qu'on distingue quand même une ligne pendant tout le livre, une ligne qui divise en fait les féministes plutôt institutionnelles, plutôt proches de l'État, c'est-à-dire qui tendent vers les lieux de pouvoir pour changer les choses. Donc un féminisme peut-être plutôt bourgeois, plutôt éduqué, et un féminisme plus insurrectionnel qu'on retrouve dans les zones coloniales, dans les zones rurales ou ouvrières. Et je me suis demandé finalement si la ligne de fracture féministe, elle n'était pas tout simplement une ligne de classe.
Alors évidemment, je vais dire, c'est plus compliqué que ça.
Oui, c'est pas drôle.
Mais effectivement, ce que l'on voit, c'est des lignes de fracture sur les stratégies à adopter. Donc effectivement, il y a une stratégie légaliste que l'on voit dès la Révolution française qui vise à transformer les droits, à intégrer ces droits dans la société. Et puis, il y a une autre ligne qui, elle, est plus révolutionnaire, insurrectionnelle, en disant, ce qu'on veut, c'est renverser la société et proposer autre chose à la place. Et donc, effectivement, il y a des fractures de classe évidentes dans les mobilisations féministes. Toutes les féministes ne sont pas des bourgeoises, comme on l'a beaucoup dit. Il y a des femmes, des classes populaires qui sont mobilisées en 1830, 1848, pendant la Commune, etc. Et puis jusqu'au XXe siècle, évidemment, aussi. Et donc, c'est pas vraiment... cette ligne, elle est pas vraie, parce que on a des bourgeoises révolutionnaires. On a aussi quelque chose qui émerge depuis les années 1950-60, qui est une classe moyenne qui n'est ni bourgeoise ni classe populaire, et puis qui participe beaucoup aussi à ces mobilisations féministes dans les institutions et hors des institutions. Donc je pense que la lecture de classe, elle n'est pas totalement juste. Par contre, c'est vrai que ce que l'on peut voir, c'est qu'à partir des années 1970, cette institutionnalisation progressive des féminismes, elle a un rôle important, même si certaines peuvent penser que voilà, c'est un féminisme un peu plan-plan ou qui n'a pas autant de force que le reste. En fait, c'est aussi les féminismes à l'intérieur des institutions qui permettent de servir de relais et qui donnent en fait aux mobilisations une largeur dans l'espace social qui fait qu'on a à la fois des féministes dans des organisations spécifiques, dans les partis politiques, dans les syndicats, dans les médias, dans les institutions. Et c'est vraiment l'articulation de toutes ces mobilisations dans tous ces espaces autour de certaines grandes causes qui, tout d'un coup, vont les faire progresser. Donc, elles s'opposent, évidemment. Elles sont pas d'accord sur plein de choses, mais en même temps, elles peuvent aussi agir ensemble pour faire progresser des questions de façon stratégique.
Même si on peut quand même un peu relier ce moment institutionnel du féminisme qui suit les années 70 avec une forme aussi d'engourdissement dans la société. Enfin, il y avait aussi un peu le sentiment, avec Yvette Roudy, c'est bon, maintenant on est à l'abri. Est-ce que cette espèce de perte de vitesse des années 80, elle vient pas aussi de cette espèce de sentiment-là que finalement le féminisme avait réussi à...
Alors,
dans les plus hautes sphères, quoi.
Peut-être qu'effectivement, déjà, il y a une forme d'épuisement militant. Quand on a milité depuis les débuts des années 70, peut-être il y a un moment donné aussi où on est un peu fatigué. Et il y a ce relais aussi d'institutionnalisation qui fait que, il y a aussi tout un féminisme subventionné qui se développe, mais qui a aussi son importance. Mais Yvette Roudy, faut retourner aux archives, là, pour le coup. Il faut écouter Yvette Roudy dans les années 80. Il faut lire Yvette Roudy dans les années 80, quand elle arrive, elle a un côté quand même assez radical. Donc, quand elle dit « Moi, ce que je veux, c'est non pas avoir un ministère de la condition féminine, mais un ministère du déconditionnement des hommes et des femmes », c'est quand même assez...
Elle est belle. Il y a un autre thème, alors on l'a évoqué rapidement, du coup tu m'as spoilé Proudhon, mais qui court vraiment sur tout le livre, c'est celui du viol, de Théroigne de Méricourt à Adèle Haenel, on le retrouve vraiment à chaque étape. D'ailleurs, j'étais surprise que ce soit thématisé si tôt, en fait, dans la pensée féministe, et donc il y a cette petite phrase de Proudhon que je vous ai citée tout à l'heure, on va pas la faire deux fois. Est-ce qu'on peut trouver dans l'histoire les causes de l'imperméabilité de la France en particulier à comprendre en fait la culture du viol?
Alors là, je pense qu'il faut vraiment revenir à chaque contexte. Justement, le terme viol, la lutte contre le viol, ne revêt pas les mêmes significations à toutes les périodes. Ça peut être effectivement un fil conducteur, justement, de dénonciation des mobilisations féministes. Elles ne se font pas selon le même mode et selon les mêmes revendications. L'idée qu'il y aurait une résistance spécifiquement en France, je pense qu'elle est quand même là très transnationale, cette résistance autour de cette sexualité féminine, de la manière dont elle s'insère dans des relations de pouvoir et de domination qui s'opèrent sur un continuum qui va jusqu'au viol. Effectivement, cette question, elle est effleurée, elle est imposée de façon plus ou moins directe par les féministes au 19e siècle, dans le premier 20e siècle. Elle est vraiment prise comme une question centrale à partir des années 1970 et repensée comme un paroxysme de la domination. Et donc c'est vraiment à ce moment-là que se met en place tout un argumentaire qu'on retrouve aujourd'hui, le socle de cet argumentaire du continuum des violences. Moi, j'ai été vraiment frappée de retrouver dans une archive du milieu des années 70 d'un groupe femme du Crédit Lyonnais, donc un groupe femme qui s'était organisé au sein de l'entreprise qui a écrit un texte sur le viol et qui décrit un continuum entre les hommes qui se frottent dans le métro, le patron qui abuse de son pouvoir, et puis le viol qui peut survenir. C'était des mots qu'on aurait pu placer dans le débat d'aujourd'hui. Donc c'est vraiment ces années 70 qui vont focaliser ça. Et sur les résistances, effectivement, elles sont là dès les années 70, sur la question de est-ce qu'il faut condamner les violeurs, il y avait aussi l'autre question centrale, c'est comment arriver à penser les relations hommes-femmes sans cette idée de censure de la sexualité, parce qu'on est en plein aussi dans les révolutions politiques autour des sexualités. Est-ce que le féminisme n'est pas porteur d'un puritanisme ouais. qui est malencontreux? Donc ces questions-là, elles s'ancrent. Et elles sont renouvelées aujourd'hui, mais ce que l'on observe aujourd'hui, c'est quand même cette idée que les consciences, elles ont évolué, que les lois, elles ont évolué, mais que les comportements perdurent. Et donc, il y a vraiment une volonté de se dire, mais comment peut-on faire pour agir sur les comportements? Et c'est vrai que c'est là que les mobilisations féministes sont intéressantes aujourd'hui, parce qu'elles essayent de vraiment montrer qu'il y a des formes de permanence, alors même que tout semble avoir bougé. Et c'est là qu'on retrouve les types d'opposition que l'on avait aussi dans les années 70, c'est-à-dire cette idée que les féministes sont du côté du politiquement correct, de la cancel culture, etc. Donc c'est aussi des arguments renouvelés dans le contexte d'aujourd'hui. Mmh.
On arrive à l'époque actuelle, les dernières pages du livre y sont consacrées. Et je trouve ça vraiment intéressant ce que tu soulignes, parce que je sais que c'est toi, le féminisme d'aujourd'hui qui passe par la communication et par cette foi en la capacité à faire évoluer les mentalités en expliquant, en communiquant. Ça me fait des petits frissons parce que j'ai l'impression de parler un peu de moi.
Ben oui, tout à fait.
Et en fait, est-ce qu'on est dans l'ère du féminisme médiatique pour toi?
Alors, je dirais médiatique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on voit, c'est que dès la Révolution française, il y a une nécessité pour les féministes de s'appuyer sur des médias qu'elles vont créer parce que justement elles ne trouvent pas l'espace d'expression dans les médias existants. Et donc dès qu'il y a des moments de brèche, d'ouverture, de liberté d'expression, elles s'engouffrent pour pouvoir créer leur propre support, diffuser leurs idées. Mais cela dit, effectivement, tu l'as très bien énoncé, aujourd'hui il y a vraiment cette foi dans la communication, cette idée que, alors je me demande si parfois ça n'a pas remplacé la foi en la révolution sociale, même si elle est toujours là, cette foi en la révolution sociale, mais c'est l'idée que par la communication, on peut transformer les sociétés et on peut transformer les comportements, et que ça a vraiment été porté par les réseaux sociaux et par cette idée qu'on avait accès à des outils beaucoup plus directement. Et donc, avec des campagnes de communication, on pourrait, par exemple, c'est ce que dit Caroline de Haas à la tête de nous toutes, avec des campagnes de communication comme celle pour la sécurité routière sur les violences sexuelles, on pourrait arriver à mettre fin à ces violences. Donc c'est très intéressant d'observer cet élan autour de la communication qui, effectivement, trouve des réalités, puisqu'on a vraiment une professionnalisation des mobilisations féministes aujourd'hui autour de ces questions de communication, c'est-à-dire qu'elles sont de plus en plus expertes, ces féministes, dans l'usage des réseaux sociaux, dans la combinaison entre ce qui se fait dans la rue et comment ça va être, on va donner un écho en ligne, sur aussi la place. Alors moi, ce qui me frappe sur le très contemporain, c'est la place des journalistes féministes qui font soit de l'entrisme dans les rédactions et se servent de relais à ces mobilisations, soit créent des espaces nouveaux, et notamment les podcasts. Ça a vraiment été un espace très important pour la parole féministe. Donc tout ça, en fait, permet de créer tout un réseau de communication qui accompagne le renouveau des mobilisations et qui donne cette impression de moment historique spécifique.
Qu'est-ce que, pourquoi on est des néo-féministes ? Ça vient d'où ce mot ? De quoi on nous traite quand on nous traite de néo-féministes ?
À chaque fois qu'il y a des renouveaux de mobilisation, elles sont nouvelles. Il y a des nouvelles féministes qui sont différentes des anciennes. J'ai en tête un article du début des années 1970 qui m'a fait beaucoup rire, qui décrivait justement ces néo-féministes, ces nouvelles féministes qui... alors, j'aime bien ce qu'il y a une description physique. Avec l'idée que, voilà, les gilets en chèvre et les pantalons pattes d'éléphant remplacent les vieux tailleurs et les chignons et les lunettes. Donc, voilà, il y a à la fois l'idée qu'on a une rupture générationnelle et qui s'inscrit dans un style féministe différent, donc ça m'avait fait rire sur le moment.
C'est un peu les crop tops de l'époque, quoi.
Voilà, c'est
gilet en mouton.
Voilà, c'est ça. Moi, je trouve que c'est un problème, cette appellation, parce que il y a l'idée c'est un terme qui est quand même très unificateur, les néo-féministes, comme s'il y avait un groupe spécifique de nouvelles féministes jeunes qui étaient toutes d'accord politiquement, alors que évidemment c'est pas du tout vrai. Les idées, les revendications, les stratégies, elles sont intergénérationnelles. Et donc, on retrouve dans les divisions actuelles des féministes toutes les générations. En revanche, ce qu'on observe et qui est frappant aujourd'hui, c'est qu'on a effectivement une nouvelle génération, voire plusieurs générations nouvelles, qui s'engagent dans ce combat, qui viennent grossir les rangs des organisations, qui viennent grossir les rangs des manifestations, parce que ce qu'on a vu aussi ces dernières années, c'est le renouveau des grandes manifestations féministes qu'on n'avait pas vues depuis des décennies. C'est aussi ces initiatives en ligne et hors ligne qui se multiplient. Donc effectivement, il y a une dimension générationnelle qui est forte, qui est importante, mais la nouvelle génération ou les nouvelles générations ne sont pas porteuses d'un type de féminisme spécifique, en fait. Donc c'est, bon, encore une fois, il faut nuancer. Voilà.
Une nouvelle féministe, pas un néo-féministe.
Voilà.
Bibia Pavard, selon toi, elle est pour quand, la révolution ?
Alors, non, c'est impossible de répondre à cette question. Je dirais que la révolution, elle est toujours là, en fait. Hein. Elle est toujours en devenir, elle est toujours possible, elle est toujours en train d'advenir. Et donc, je pour le moment, je reste historienne, je ne prédis pas encore l'avenir, malheureusement. Je suis désolée.
Ça évoque quoi pour toi, la poudre ?
Qu'est-ce que ça évoque pour moi, la poudre ? Ben justement, c'est un objet de recherche. Ça évoque le nom du podcast. Ça y est, j'ai compris la question. Qu'est-ce que ça évoque ? Ça y est.
Non.
Ça y est, j'ai compris la question.
Mais non, mais au contraire, tu répondais de la façon la plus spontanée possible. C'était génial.
Moi, ça évoque une émission, un podcast.
Ah non, c'est pas une bonne réponse.
Pour moi, la poudre, ça évoque un très bon jeu de mots. C'est une très belle polysémie qui montre toutes les ambiguïtés, par exemple, qu'on peut trouver dans les mobilisations féministes, entre la volonté d'avoir des armes pour lutter, hein, la poudre, celle qu'on va mettre dans le fusil. Et je pense à Madeleine Pelletier qu'on a déjà évoquée et qui suggérait d'élever les filles en les masculinisant pour qu'elles apprennent elles aussi à se servir d'une arme et qui se baladait avec un revolver elle-même dans sa poche pour se sentir plus en sécurité dans la rue, par exemple. Et puis, ça m'évoque aussi la poudre, évidemment, celle que j'ai mise sur mon visage avant de venir et qui, donc, le maquillage qu'on peut utiliser. Et qui permet aussi de penser qu'est-ce que ça veut dire que ces représentations des femmes et des hommes, comment essayer de penser le maquillage comme un objet de domination, mais aussi parfois un levier d'expression d'expression féministe, hein, d'essayer de réfléchir à ça toujours dans cette idée de polysémie, d'ambiguïté et de diverses appropriations possibles de cet objet.
Merci beaucoup, Bibia Pavard. Merci.
Merci.
Je voudrais encore dire un dernier mot pour remercier la SCOP Paris Interprétation, Laura et Ludivine qui ont fait un boulot magistral.
avec tous les noms propres et toutes les dates. Et ça devait être l'enfer à signer. Merci vraiment à toutes les deux. Si tout va bien, on se retrouve le 19 novembre avec Mam Fatou Niang. Et ça va être super.
Merci à Bibia Pavard d'être venue faire parler La Poudre avec moi. La Poudre est un podcast produit par Nouvelles Écoutes. Merci à Aurore Meyer-Mailleux pour la réalisation, à Gaïa Marty pour la programmation, la prise de son et le reste. Au mixage aujourd'hui, Marion Emery. Merci à Bonnie Banane pour sa chanson dans le générique. Merci à vous pour l'écoute. On se retrouve sur Internet, Instagram, Twitter, Facebook. La Poudre est partout. Si vous avez des réflexions, des compliments ou des critiques à faire, n'hésitez pas, j'adore ça. Ah, j'allais oublier, pour lire les mêmes livres que moi, allez sur le site La Poudre Lit. Vous connaissez la suite, prenez soin de vous et continuez de faire parler La Poudre.